va écouter la communication de Rangla Ayari-Chérif, qui porte le titre suivant, « Le traitement de l'inattendu des révolutions arabes dans le cinéma et le documentaire égyptien et tunisien ».
Je vous remercie. Donc il y a un petit changement au niveau de l'intitulé, étant donné que Madame Tagaghetti et moi proposons à peu près le même sujet. Nous avons revu et révisé ensemble le contenu de l'une et de l'autre, et nous avons décrété que je travaillerai sur le documentaire tunisien et égyptien, alors que Madame Tagaghetti travaillera essentiellement sur les films. Donc, je n'ai pas du tout la prétention de prononcer une conférence sur un sujet que j'ignore pour l'instant, puisque ça ne fait que quelques mois que je travaille sur le documentaire en Égypte et en Tunisie. En revanche, je vais commencer par vous présenter un travail préliminaire qui a été fait jusqu'ici, jusqu'à ce jour, et qui porte sur le documentaire égyptien et le documentaire tunisien au lendemain des deux révolutions. Je commencerai tout d'abord peut-être à faire une brève description, une brève présentation du documentaire par opposition au reportage et par opposition au film de fiction. À la fin du 19e siècle, le cinéma à Paris, grâce à une formidable invention, une invention tout à fait lyonnaise, puisqu'il s'agit du cinématographe, mis en place et mis au point par les frères Lumière. Afin de promouvoir cet appareil-là, et afin de promouvoir le matériel photographique mis au point aussi par ces frères-là, les créateurs du cinématographe vont envoyer à travers le monde des opérateurs qui vont se charger de la vente, de la commercialisation. Et donc, ils vont essayer à la fois de vendre et de commercialiser les cinématographes, le cinématographe, mais ils vont aussi filmer sur terrain un ensemble d'éléments qu'ils vont retrouver sur place. Ils vont filmer les lieux, ils vont filmer les communautés, ils vont filmer les rites, les traditions, les us, les coutumes, mais ils vont aussi filmer les principales personnalités politiques de l'époque en fonction des lieux dans lesquels ils se trouvaient. Peu à peu, le spectacle cinématographique va se développer. Et ce développement va imposer des formes de narration tout à fait différentes, qui sont spécifiques à la fiction, mais aussi des formes de narration qui vont être spécifiques à un genre ou à une forme qu'on ne nomme pas encore documentaire, mais qu'on va appeler récit de voyage ou film d'exploration. En 1914, l'éclatement de la guerre en Europe va s'accompagner d'une prise en charge de cette nouvelle, de ce nouveau matériel, et ce nouveau matériel va être utilisé à des fins politiques, puisqu'on va utiliser le cinématographe à des fins de propagande politique. Plus tard, dans les années 20, le film de voyage ou d'exploration va refaire surface, va ressurgir, et va reprendre du service. Et c'est là que vont être mises en avant un certain nombre de choses, et notamment, on va découvrir un intérêt réel pour les populations nord-américaines. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que Robert Flaherty va réaliser le film Nanook, qui est considéré comme étant le film clé, le film fondateur du documentaire. L'avènement du parent, quelques années plus tard, va bouleverser ce rapport qu'on va entretenir avec l'image, et les films documentaires courts et longs devront être aussi sonorisés. Cette nouvelle caractéristique du documentaire va être réappropriée par les politiques, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, et comme vous le savez tous, les Allemands et les Espagnols vont exploiter et explorer à fond cet outil-là, à des fins de propagande, mais aussi à des fins de contre-propagande. En France, à la fin de la guerre, on tourne des films courts à caractère documentaire. Ces films courts vont être projetés juste avant les longs-métrages, vont être projetés dans les salles de cinéma. Beaucoup de ces films vont être des films de commande ou des films institutionnels. Leur qualité artistique va être très relative, mais ça permettra au moins à un certain nombre de réalisateurs, un certain nombre d'auteurs, de s'affirmer à travers cet art-là. Raymond Queneau, d'ailleurs, appelait ces films-là les qualifier de docu-cul. Il était très peu convaincu par la qualité et à la fois esthétique et à la fois technique de leur contenu. Et petit à petit, donc au fur et à mesure que le temps va avancer, le documentaire va s'affranchir des films de propagande et va s'intéresser à des sujets beaucoup plus individuels, beaucoup plus intimes. L'évolution du matériel cinématographique, notamment avec la caméra portée, la caméra numérique, va permettre aux réalisateurs et va permettre aux techniciens d'être beaucoup plus à l'aise dans leur manière d'entreprendre le sujet qu'ils vont filmer ou les sujets qu'ils vont filmer et leur technique. Donc, à caractère iconographique, politique, social, historique, intime, le documentaire va se vouloir témoin et dénonciateur de la violence et de l'injustice sociale pendant les 50 dernières années. Il se voit aussi, surtout, et c'est ce qui me concerne aujourd'hui, archives et mémoire du réel. Tous les réalisateurs sur lesquels j'ai pu travailler ont tous affirmé, j'ai pu mener quelques entretiens avec quelques-uns parmi eux, tous ont insisté sur le fait qu'ils se sentaient obligés quelque part de jouer le jeu des témoins, d'archiver tout ce qui avait défilé devant eux. Donc, dès le départ, le documentaire va se définir par opposition à la fiction, en se présentant comme étant l'enregistrement du réel et la caméra dans la rue. Comme on avait parlé des frères Lumière, va s'opposer à la caméra qui tournera en studio. On insiste vraiment sur la proximité de la caméra avec la réalité. Ce souci du réel, cette caméra dans la rue, ce souci d'archivage et de mémoire, est palpable dans les documentaires produits entre 2011 et 2012 en Égypte et en Tunisie. En effet, les révolutions arabes ont vu dans la rue fleurir. Et ça, je l'avais vécu en live, si vous voulez, à Tunis notamment, ont vu fleurir des caméras. Je n'ai jamais vu autant de caméras de ma vie à Tunis, avant le 14 janvier de quelques jours, et pendant toute la période qui va suivre. Ce qui est très étonnant, auparavant, les réalisateurs, ou toute personne qui détenait une caméra en main, étaient censés recourir à l'autorisation et à un visa du ministère de l'Intérieur pour pouvoir filmer, avant même de pouvoir diffuser, avant même d'avoir un visa d'exploitation qui était le cachet et du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Culture, il fallait d'abord être autorisé à filmer. Donc, cette liberté-là qu'ont arraché les réalisateurs, les plus confirmés d'entre eux, les amateurs, les réalisateurs amateurs, les réalisateurs débutants, les personnes qui détenaient une caméra chez eux à titre de dilettante, les personnes qui avaient d'anciennes caméras, les caméras portées, les caméras numériques, les caméras des téléphones portables, tout a été utilisé. Il y a eu un réel souci d'archivage. Pendant toute cette période-là, la période suivant le 14 janvier, et la période qui avait précédé, notamment avec ce qui s'est passé à Téla et ce qui s'était passé à Kasserine. Toutes les informations qui ont été récoltées à Tunis, tout ce qui nous parvenait à Tunis, comme images, n'étaient absolument pas des images officielles. C'était des images, comme l'avait expliqué la dernière fois notre ami, c'était des images qui provenaient de vidéos cinéastes amateurs et qui ont pris toute la dimension documentaire, d'archivage, de mémoire, de témoignage qui leur a été accordée. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me poser la question suivante. Comment articuler l'inattendu avec l'image? Comment l'inattendu a été représenté par ces documentalistes? Comment l'inattendu a été capté dans ces documentaires et comment il a été restitué aux spectateurs? Je ne vais pas dresser une liste exhaustive des films sur lesquels je voulais travailler, parce qu'il s'agit d'une volonté de travail. En fait, le problème qui s'est posé n'est pas le fait qu'il y ait ou pas des documentaires, c'est l'accessibilité aux documentaires. J'ai commencé par me rendre au CNC. Au CNC, je n'ai absolument rien trouvé, si ce n'est un film, celui de Mourad Benchir, du côté du Bois d'Arcy, donc à l'extérieur de Paris. Sinon, aucun film n'était répertorié. Au niveau de l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel, je parle de la France pour l'instant, au niveau de l'Institut National de l'Audiovisuel, on a beau archiver, mais on n'archive que les brèves, les reportages, les plateaux télé, les journaux. Donc, les documentaires n'existaient pas non plus. Je me suis ensuite rendue à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, qui possède quand même un fonds visuel et sonore assez conséquent. Il n'y avait rien non plus. J'ai décidé de me rendre au Centre Georges Pompidou. Un film, celui de Mourad Benchir. Et puis, arrivant face à un mur, j'ai quand même essayé d'aller jeter un coup d'œil du côté de la Bibliothèque du cinéma François Truffaut à Paris. Rien. Je m'étais dit que peut-être c'était dû au fait que je sois en France. Je suis rentrée en Tunisie. En Tunisie, j'ai fait le tour. Aucun moyen de récupérer ces enregistrements. Il a fallu faire le tour des réalisateurs, faire du porte-à-porte. J'ai beaucoup de chance d'en connaître quelques-uns parmi eux, qui ont bien voulu me prêter leurs films. Pour les autres, ça a été beaucoup plus problématique. Certains films ont été diffusés dans le cadre de festivals. Le festival du film, Human Screen Festival, le festival du film du droit de l'homme, par exemple, ou lors des JCC, ou lors du festival du film de Kélibia. Donc c'est généralement des films amateurs qui sont projetés. Et pour les autres, grand point d'interrogation. Donc le problème qui se pose n'est pas tant le problème de la production, c'est le problème de la diffusion et de l'accessibilité. J'ai fini par me rendre, en revenant à Paris, à l'Institut du monde arabe, pensant y trouver quelque chose. Il y avait certains ouvrages, mais pas de films. Je me demande d'ailleurs quel est le rapport que nous entretenons, ou que les bibliothèques, les librairies, les centres de documentation entretiennent avec l'image. Soit l'image n'est pas suffisamment crédible à leurs yeux, soit l'image possède quelque chose de menaçant, de dangereux pour eux. Donc je n'arrive pas à comprendre ce rejet de l'image et cette absence totale d'archivage ou cette absence totale de catalogage de documentaires, aussi bien tunisiens qu'égyptiens, dans ces lieux-là. Pour ce qui est d'Égypte, sincèrement, je me suis tournée vers mes amis égyptiens qui ont eu la gentillesse de m'envoyer par mail, ce qui ne se fait pas en principe, quelques-uns de leurs films. Voilà. Donc ça, c'était pour vous introduire au cœur du sujet. Les films que j'ai sélectionnés, parce que quelques-uns parmi eux, quand même, se trouvent sur Internet. Donc vous pouvez les visualiser sans problème. Les films que j'ai choisis sont les suivants. Le premier, c'est celui de Tahrir 2011, Le Bon, La Brute, Le Politicien. C'est un film égyptien, sous forme de triptyque, de trilogie, réalisé par Aitan Emin, par Tahrir Razat et par Ram Salem. Un film qui dure 90 minutes et qui date de 2011. L'intérêt de ce film-là, c'est de se diviser donc en trois parties. Chaque réalisateur a choisi un axe, avec un fil conducteur, celui de la Révolution, et chacun a traité cet axe-là en fonction d'un point de vue qui lui était particulier. C'est le propre du documentaire d'ailleurs, et c'est ce qui différencie le documentaire du reportage, le point de vue de l'auteur. Ensuite, j'ai travaillé sur le film d'Ahmed Rachouane, Born on 25 January, Mauloud Yom 25 Yanaï. C'est un film de 80 minutes, subdivisé lui aussi en deux parties. On reviendra à cette histoire de subdivision dans les films égyptiens. Et le réalisateur a présenté ce film dans pas mal de festivals internationaux, et le film a connu un succès certain. Chez un public, bien entendu, qui n'est pas forcément le grand public. Hein. Le troisième film sur lequel j'ai travaillé, c'est un film tunisien, plutôt assez connu maintenant, Plus jamais peur. C'est un film de Mourad Bencher qui date de 2011, un film de 74 minutes. Notre film tunisien s'intitule Rouge Parole. Il a été réalisé par Elias Bakar en 2011 et dure 94 minutes. Et j'avais besoin d'un regard extérieur, non pas celui d'Égyptien qui parlait d'Égypte, non pas celui tunisien qui parlait de Tunisie, mais un regard extérieur à ce qui se passait au niveau de l'Égypte, c'est Tahrir, Place de la Libération, un film qui a été réalisé par Stéphano Sabone. Alors justement, pour l'analyse, je vais aller très rapidement. Je voulais simplement vous présenter le travail, vous présenter les grandes lignes de ce travail, peut-être vous donner envie d'aller voir ces films-là, ne serait-ce que sur Internet, faute de mieux. Pour ce qui est pour ce qui est du triptyque ou de la trilogie, Le Bon, La Brute et Le Politicien, bien entendu qu'il s'agit d'un clin d'œil au film de Sergio Leone, Le Bon, La Brute et Le Truand, et vous comprenez bien que le mot truand a été remplacé par Le Politicien. Pour Sergio Leone, pour ce qui est de ce film-là, la première partie, donc Le Bon, s'intéresse essentiellement au premier temps de la Révolution en Égypte. Le réalisateur de ce film-là, donc de cette partie de film, Tahrir Razat, de cette première partie de trilogie, s'est intéressé à ce qui se passait à la place Tahrir, à la libération de la parole au niveau de la place Tahrir, et aux premières condamnations de Moubarak. La deuxième partie de cette trilogie-là est une partie un peu plus courte, La Brute, et elle s'intéresse aux violences policières d'un côté, et surtout au discours de la police et à la parole de la police qui s'était libérée aussi à ce moment-là. Ce qui est assez intéressant dans cette deuxième partie, c'est que c'est une partie qui a été réalisée par une femme. Et les témoignages de la police et de l'armée qui y figurent sont des témoignages qui ont été faits de manière extrêmement fluide. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il s'agissait d'une femme en vis-à-vis, donc en interlocutrice, ou si tout simplement c'était dû à un autre paramètre. Mais je crois que la présence féminine y est pour beaucoup. La troisième partie, le politique, est une partie beaucoup plus légère que les autres. La partie précédente intègre quand même une dose assez lourde de trauma, de torture, de violence. La troisième partie est beaucoup plus légère, puisqu'elle fait référence au culte de la personnalité de Moubarak. Et c'est là qu'on rejoint ce que j'avais dit au départ à propos du documentaire comme élément de propagande. La troisième partie du triptyque, la troisième partie du triptyque de Tahrir 2011 est une partie qui s'intéresse au culte de la personnalité, et on retrouve les articulations de la propagande politique en Égypte sous Moubarak. Mais c'est traité avec énormément d'humour et énormément de légèreté. On y intègre énormément de dessins, de graffitis, de croquis, de la publicité. L'humour égyptien est réellement mis en avant. Je peux vous assurer que c'est un amour... un humour décapant. Ça prouve mon amour pour l'Égypte. Hein. Voilà. Ensuite, le deuxième film, j'allais beaucoup plus rapidement parce que je n'ai plus le temps, et bon, il me reste 5 minutes, parfait. Donc, le deuxième film est Bonn on 25 January, Mouloud Yuhraza Hashim Yanaï. C'est le deuxième film du réalisateur Mahmoud Lachouen, donc qui date de 2011 en Égypte. C'est un film qui dure à peu près 80 minutes. Et l'intérêt de ce film-là, c'est de mettre en avant le réalisateur, qui est à la fois réalisateur, narrateur, auteur et cadreur. Le réalisateur va se mettre au cœur du film. Non seulement il va filmer, mais il va demander à être lui-même filmé à son tour. Le film évolue parallèlement à la biographie de l'auteur, où la biographie de l'auteur évolue avec le film, et le film s'inscrit aussi dans la biographie des enfants de l'auteur. Donc l'introduction du film part avec la naissance du premier enfant de Ahmed Lachouen, la naissance du deuxième enfant d'Ahmed Lachouen, la naissance du premier enfant correspond à la guerre d'Irak, la naissance du deuxième enfant correspond à la bombe de Sharm el-Cheikh en 2005, et tout le film va être structuré de la sorte, toute la narration, toute la diégèse va être structurée de la sorte, tantôt à l'aspect biographique, tantôt à l'aspect au cœur de l'histoire de l'Égypte. Et le fait que l'auteur s'inscrive, que le documentariste s'inscrive et s'inclut et dans l'actualité, et la biographie et sa vie, sa vie personnelle s'inclut dans l'actualité. Donc il y a un jeu, un pont entre le personnel, l'histoire avec un grand H et l'histoire personnelle, me paraît tout à fait intéressant. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller un peu, de manière un peu plus profonde dans l'analyse, parce que je n'ai plus le temps. Donc je passe directement à ma Tunisie. Donc Plus jamais peur, le film de Moulad Bouchir, c'est un film qui dure 74 minutes. Il est rythmé par le témoignage d'un patient, qui est en souffrance et qui est en thérapie artistique, et le film va être cadencé de la sorte. Il ne s'agira pas de se mettre en avant pour Moulad Bouchir, non, le documentaliste va être absent, le réalisateur va être absent, il va simplement filmer. Et au fur et à mesure que le film avance, nous aurons un patient, une personne en cours de thérapie artistique, qui va coller, qui va effectuer une sorte de collage d'images et de photographies. Et le tableau qui va construire à partir de ce collage-là commencera en début du film et se terminera plus ou moins en début de film. Ces collages vont se faire à partir d'articles de presse, à partir de photos de presse, qui traitent bien entendu de la révolution tunisienne. Le film fait référence à un certain nombre de personnalités, donc à Adila Benouhaine, la blogueuse, et à son père, Farad El Nasraoui et Hama Amemi, son mari, donc, qui sont des militants de gauche en Tunisie. Il va mettre en avant ces aspects-là. Et il va surtout mettre en avant, exactement comme Ahmed Lachouen, et ça j'avais oublié de préciser, l'arrivée des intégristes. Ahmed Lachouen et Ayman Azad et Aïtan Emin et Ram Salem vont, et je pense que c'est aussi ça l'inattendu, de mettre en avant l'arrivée des intégristes dans leur pays. Pour eux, ce sera aussi surprenant, aussi inattendu, aussi imprévisible que la révolution à proprement parler dans les deux pays. Et dernier film, je vais clore, vraiment. Donc le dernier film est celui de Lise Bacal, il s'intitule Bouche-parole. C'est un film tunisien qui date de 2011, 94 minutes. Et là, l'auteur est aussi au cœur de l'action, il ne se filmera pas. Mais c'est sa voix qui va nous diriger tout au long du film, qui sera systématiquement en off, pour parler de ses propres sentiments, de ce qu'il a ressenti pendant toute la Révolution. Il va filmer un certain nombre de témoignages, un certain nombre de personnalités en Tunisie, et il dira un moment, caméra à la main, je descends à l'avenue Habib Bourguiba, artère principale et témoin du miracle de la veille. J'ai du mal à y croire. Le terme, l'utilisation du verbe croire, l'utilisation du mot croire, du mot miracle, du mot, tous ces termes-là obéissent quand même à un champ lexical religieux, mystique, sacré. Et quelque part, pour toutes ces personnes-là, parce qu'on retrouve le même discours aussi chez Ahmed Achouen, qui dit je vais me mettre à croire à l'incroyable et essayer de ne pas croire au croyable, etc. Il y a tout un jeu lexical sur la croyance. Tous ces éléments-là, tous ces auteurs-là et tous ces documentaires-là insistent sur le fait qu'il y a quelque chose de sacré dans la révolte et dans la révolution de manière générale. Je clôt tout de suite, parce qu'on n'a plus de temps, avec le film de Stefano Savona. Donc, Tahrir passe de la libération. Il ne s'agit non pas d'un Égyptien qui va parler d'Égypte, il ne s'agira non pas d'un Tunisien qui va parler de Tunisie, mais d'un Italien qui va parler de ce qui s'est passé à Place Tahrir. Lui ne s'autorisera aucun commentaire. Il ne sera absolument pas présent, il sera présent simplement par sa caméra. À aucun moment on l'entendra, à aucun moment il parlera en off, il sera là juste sur place. Stefano Savona va filmer ce qui s'est passé à Place Tahrir et simplement à Place Tahrir. Il restera donc dans cet espace-là, dans cet espace géographique-là. Et par contre, dans ce film-là, contrairement aux autres, la chronologie va être extrêmement respectée. À tous les moments, on aura un sous-titrage avec la date, le lieu et l'événement. Pardon, merci. Donc, l'inattendu dans le documentaire s'articulera donc, enfin, d'après moi et d'après le début de ce travail-là, autour de trois points. Le premier niveau, c'est l'acte de filmer lui-même. Pour ces quatre réalisateurs, ou pour ces cinq réalisateurs, la caméra a été là, ils ont filmé sans autorisation. Les films devraient être en principe à la portée de tout un chacun et accessibles à tout un chacun. Donc ils n'ont pas non plus eu besoin de visa, ni ne sont pas non plus passés par la censure. Maintenant, pour parler de censure, nous dirons, peut-être que Lim en parlera tout à l'heure à propos du film de Nedhi Elfemi. Il s'agit d'une censure non pas étatique, mais d'une censure des groupes et des lobbies politiques en Tunisie. Ensuite, le deuxième niveau de censure se situe au niveau des dictateurs eux-mêmes. Au niveau des dictateurs eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que ces dictateurs, à aucun moment, n'avaient pensé, et leur discours qui vont scander les cinq films le précise bien. Les cinq films reprennent les discours de leur président. Les dictateurs, à aucun moment, ne s'attendaient à ce que le peuple se révolte contre eux. Donc il y a eu un déni de la révolte populaire. Et ça, je crois que c'est aussi une forme d'inattendu. De l'autre côté aussi, le peuple ne s'attendait pas à ce que, quand bien même il disait « dégage, dégage », le peuple s'attendait-il vraiment à ce que les dictateurs viennent à dégager? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils y croyaient, peut-être qu'ils n'y croyaient pas, mais en tout cas, le processus était enclenché. Et déclenché, il n'allait pas faire marche arrière, ça c'est certain. Et troisième point, et je vais reprendre ce que disait Madame Benachour hier, parce que le pressentiment que j'ai des films, le troisième point d'inattendu, c'est surtout l'arrivée des islamistes au pouvoir, auxquels personne ne s'attendait. Qu'ils reviennent dans leur pays d'origine, qu'ils soient présents dans leur pays d'origine est une chose, mais qu'ils prennent le pouvoir était notre paire de manches. Je vous remercie.